Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Professeur Eric Combe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment les grands spécialistes des maladies infectieuses réagissent à la décision d'Emmanuel Macron? Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Emmanuel Macron a donc décidé de maintenir le couvre-feu avec quelques nouvelles restrictions. Est-ce qu'il prend un gros risque? Est-ce qu'il a pris un gros risque?
Oui, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a pris un risque. Un assez gros risque quand même.
Oui.
Et puis on verra.
Pourquoi
bien.
Un assez gros risque, Eric Combe?
Mais en fait, c'est très difficile de s'exprimer pour toute la France, vous voyez, parce qu'on a tous une approche biaisée par là où on exerce. Et la situation n'est pas du tout la même dans l'ouest de la France, qu'elle est dans l'est de la France, dans le sud ou dans le nord. Donc, quand on s'exprime, moi je suis à Paris,
oui.
À Paris, effectivement, on voit la courbe monter. Donc, on est très inquiet. Mais si j'étais en Bretagne, je ne verrais pas de courbe monter.
Donc, vous êtes inquiet. À Paris, vous êtes inquiet.
À Paris, on est inquiet, oui, ça c'est évident.
C'est évident.
Oui, parce qu'on est déjà presque à un seuil de saturation des réanimations, on est en train de déprogrammer pour pouvoir accueillir plus de patients. Donc oui, on est inquiet, on est dans une phase ascendante de l'épidémie.
Oui, professeur Eric Combe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, des mesures centralisées ne sont peut-être pas les bonnes. Ça veut dire qu'il faudrait régionaliser la lutte contre le coronavirus, encore une fois?
En tout cas, c'est une question qu'il faut se poser sérieusement, parce qu'on voit que la situation est très disparate d'une région à une autre. Mais là où c'est encore plus compliqué, c'est qu'à l'intérieur d'une même région, elle peut être différente. Donc c'est vraiment c'est la quadrature du cercle à résoudre. C'est compliqué.
Et est-ce que en prenant cette décision, Emmanuel Macron nous fait perdre au moins une semaine de lutte contre le coronavirus? Franchement,
ça dépend de la manière dont comment on se place.
Oui.
Quelque part, on perd une semaine. Je vous rappelle qu'il y a un élément fondamental qui a été oublié, c'est qu'entre le moment où on prend une décision et le moment où elle produit son effet, il se passe 15 jours à 3 semaines. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça va continuer de monter pendant les 15 jours qui viennent. Et comme on est déjà à la limite de la saturation, on prend un risque.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Nous ne pourrons pas éviter un nouveau reconfinement, selon vous?
Non, je pense que ça dépend où on est, ça dépendra des régions, ça dépendra évidemment de ce qui va se passer dans les jours qui viennent, ça dépendra aussi de l'effet des vacances.
Ça veut dire que s'il y a autant de disparités sanitaires dans les jours qui viennent, il va falloir prendre des décisions de confinement régionaux, des confinements selon les régions, selon les départements, peut-être selon les métropoles.
Je crois que ça va se discuter à un moment, effectivement.
La question sera posée.
Oui, la question va se poser, c'est évident.
Ça veut dire déplacement limité.
Une des conséquences, effectivement, de ces confinements régionalisés, c'est que les déplacements pourraient plus avoir lieu entre deux régions.
Avec des vacances scolaires qui approchent.
Effectivement, ça complique énormément la décision politique.
Exactement, ça complique la décision politique.
D'accord.
Est-ce que la situation sanitaire est moins inquiétante que prévu? Franchement, parce que ça fait 3 semaines... que j'invite régulièrement ici des professeurs comme vous, des infectiologues, des médecins qui sont au cœur de cette épidémie et qui me disent attention, c'est dangereux, attention, l'épidémie progresse, on va avoir droit à un nouveau pic avec les variants qui viennent de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud, du Brésil ou d'ailleurs. Eric Combe, alors, est-ce que la situation sanitaire est moins inquiétante aujourd'hui qu'il y a 15 jours?
Ah non, elle n'est certainement pas moins inquiétante qu'il y a 15 jours. Elle est plus inquiétante qu'il y a 15 jours.
Elle est plus inquiétante.
Parce que depuis 15 jours, ça continue de monter. Et même si ça monte doucement, ça monte sûrement. Après, il faut se rappeler que la santé, c'est un état de bien-être physique, psychique et social. Et donc, si vous prenez en compte le physique, effectivement, les choses ne vont pas bien. Mais si vous prenez en compte le psychique et le social, les choses ne vont pas mieux.
Ça veut dire
mieux.
Quoi? Ça veut dire que le président de la République a pris la bonne décision si on prend en compte tous les critères.
Oui.
Et la mauvaise décision si on ne prend en compte que le critère sanitaire.
Exactement. C'est exactement ce que je pense. Je pense que si vous vous focalisez sur le sanitaire et exclusivement le sanitaire, la santé physique, et là effectivement c'est une mauvaise décision, aucun d'entre nous ne prétendra le contraire, mais si vous prenez en compte tous les paramètres, ce qui est le rôle des politiques d'ailleurs, de prendre en compte le paramètre moral, le paramètre psychique, le paramètre social, là effectivement c'est une balance et il faut mesurer le juste milieu.
Est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron a envoyé un message au monde médical à tous les médecins qui viennent sur les plateaux, qui sont invités, hein, qui ne viennent pas, qui ne s'invitent pas, que les choses soient très claires et soyons honnêtes. Hein. Oui, c'est nous qui vous invitons. Mais est-ce qu'il vous a envoyé un message à Jean-François Delfrécy, à vous, à tant d'autres qui sont là régulièrement?
Enfin, il a envoyé un message pour nous rappeler qu'il n'y avait pas que la santé physique dans la vie, qu'il y avait la santé psychique, qu'il y avait le social et l'économique. Quoi. Ça m'apparaît une réalité incontestable.
Oui, enfin, en tant que vous connaissez, pas évidemment.
Pas en tant que médecin, mais en tant que citoyen. Quoi.
En tant que médecin, c'est une erreur. Mais
une erreur si vous prenez en compte que la santé physique, mais si vous prenez en compte la santé psychique et la santé sociale, c'est pas forcément une erreur.
Je vous dis ça parce que beaucoup crient à la dictature sanitaire, ICOM.
Oui, je sais. Oui.
Ça vous exaspère, ça? Ou pas? Comment répondez-vous à cela?
Honnêtement, moi je pense qu'effectivement, le sanitaire prend trop de place dans cette crise, qu'on n'écoute pas assez notamment les philosophes, qu'on manque d'éthique aussi, on manque énormément d'éthique, notamment pour nous guider dans nos approches par rapport aux malades. Donc, effectivement, oui, je pense qu'on accorde trop de place aux sanitaires, aux épidémiologistes, aux mathématiciens qui prévoient des catastrophes.
Qui prévoient des catastrophes. Mais vous prévoyez des catastrophes.
Oui, absolument. Je fais partie.
Vous assumez.
Je fais partie de ce milieu-là. Donc, effectivement, j'assume, mais je suis médecin et je sais aussi qu'il y a des problèmes psychiques, qu'il y a des problèmes sociaux et qu'on peut pas les éliminer, hein, parce que ça prend énormément d'importance quand même. Notamment parmi la jeunesse. Donc, ils sont obligés de prendre en compte toutes ces variables.
Mais tiens, puisqu'on parle de la jeunesse, parlons du plein air. Vous dites, je ne comprends pas pourquoi les activités plein air ne sont pas rouvertes, et notamment pourquoi les stades ne sont pas rouverts.
Aux spectateurs,
oui.
Oui, absolument. Je pense que les spectateurs, quand ils se contaminaient surtout dans les bistrots qui étaient en face des stades, quand les bistrots étaient ouverts, d'ailleurs ça a été montré, et ils ne se contaminaient pas dans les stades en plein air. D'ailleurs, on voit bien en Australie, là, ils vont... alors évidemment, ils sont arrivés à maîtriser l'épidémie, il va y avoir des spectateurs qui vont assister. Et il y a d'autres moments où il y avait une épidémie en cours, peut-être à un moindre niveau, il y avait des spectateurs. Je pense qu'à l'extérieur, on a trop oublié qu'à l'extérieur, on avait peu de chances de se contaminer quand même.
Le confinement, c'est la dernière solution.
Oui, le confinement, c'est la solution.
Il n'y a rien d'autre.
Voilà, possible. C'est ça. Le confinement, c'est la solution d'échec, en fait.
C'est une solution d'échec.
Voilà, exactement. C'est-à-dire, on ne peut pas faire autrement, donc on confine. Alors après, si on confinait pour repartir à zéro, en se disant il faut empêcher ce virus de circuler à tout prix, comme c'est le cas à Taïwan, enfin dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, ou même en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a quand même de plus en plus de pays qui arrivent à zéro circulation de virus. Si c'était ça le but du confinement, c'est-à-dire on repart de zéro et zéro circulation de virus, ça serait intelligent. Parce que continuer à se dire qu'on va circuler, qu'il y aura des virus qui vont circuler tout le temps, c'est une erreur. Hein. Il va y avoir des variants qui vont émerger, qui vont nous mettre en échec. Donc on va être parti pour des mois, voire des années.
Des années ?
On n'en sait rien, puisque on va laisser circuler des variants. Donc on ne sait pas combien de temps. Moi, les gens qui arrivent à prévoir la fin de l'épidémie, je leur dis bravo, parce que moi, j'en sais absolument rien. Mon seul repère, c'est un repère historique, c'est l'épidémie du dernier coronavirus, l'OC43, en 1890. 1890, donc là on a un repère historique et ça a quand même duré des années et on avait laissé circuler le virus comme ça puisqu'à l'époque il n'y avait ni vaccin, ni mesures de confinement, ni quoi que ce soit d'autre.
Alors des débats sont ouverts, faut-il continuer à préserver la santé des plus anciens au détriment peut-être de la santé notamment psychologique des plus jeunes? Vous entrez dans ce débat ou pas, Eric Combe? Qu'en pensez-vous?
Je pense que c'est un débat très compliqué et c'est là où on manque d'éthique. Là où on a besoin de réflexion philosophique, de réflexion éthique, et il nous en manque cruellement depuis le début de l'épidémie, en fait.
Oui. La grande majorité des personnes décédées ont plus de 75 ans.
Oui, absolument, je confirme. Alors après, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades dans des tranches d'âge inférieures, hein, quand même, qui encombrent les hôpitaux, qui saturent les réanimations, et donc du coup, vous avez une complication d'une intervention chirurgicale banale, vous ne pouvez pas rentrer dans l'hôpital. Oui, c'est ça le problème de la saturation du système de soins.
En fait, il faut quand même pas oublier ça. C'est tout le problème.
Oui,
c'est l'unique problème majeur.
Oui, c'est l'unique problème. Mais c'est le même problème, d'ailleurs, je vous rappelle, depuis un an. Hein.
Oui,
c'est-à-dire depuis un an. Pour moi, c'est le retour à la case départ. On est exactement. J'aurais pu vous raconter la même chose il y a un an, quasiment.
Enfin, c'est vrai.
Il y a 10 mois.
C'est vrai.
Oui.
Mais alors, pourquoi en un an n'a-t-on pas ouvert des lits en réanimation, permis à l'hôpital de faire face justement à une accélération ou un prolongement de cette épidémie.
C'est la même réponse qu'il y a un an en fait, parce que des lits ça ne suffit pas, il faut des médecins, il faut des infirmières, et nous manquons d'infirmières, nous manquons de médecins, nous manquons de lits, nous manquons d'hôpitaux, et ça c'est le résultat de la politique sanitaire.
Je vous parlais des plus âgés, parce que j'ai lu, je ne sais plus où, que... Et je m'en suis souvenu effectivement qu'après Fukushima, ce sont les plus âgés au Japon qui ont nettoyé les sites radioactifs pour éviter que les jeunes ne soient contaminés, pour préserver les jeunes générations.
Oui, bah oui, c'est.
Ça veut dire que les plus anciens devraient peut-être s'auto-confiner plus. Beaucoup le font, hein.
Oui, beaucoup. Je crois qu'ils le font naturellement. Hein. Beaucoup d'entre eux le font naturellement. Oui. Donc, oui, ils doivent se vacciner. Et tant qu'ils ne peuvent pas être vaccinés, ils doivent s'autoconfiner.
Est-ce que seule la vaccination, professeur Combes, nous permettra de maîtriser cette épidémie?
Non, la seule chose qui nous permettrait de maîtriser l'épidémie, c'est de faire comme ce qui se passe en Asie du Sud-Est, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est zéro circulation de virus. Ça s'appelle maîtriser une épidémie. Alors,
zéro circulation de virus, ça veut dire qu'on s'enferme tous.
Alors, voilà, c'est ça le problème. Et à l'échelle d'une nation, quand vous êtes une île, je pense que c'est facile.
Oui.
Enfin, c'est facile.
Disons que
c'est relativement plus facile, disons, quand vous êtes un continent comme l'Europe et en plus avec
c'est plus facile en Nouvelle-Zélande, c'est plus facile à Taïwan, c'est même plus facile en Australie. Ouais. D'ailleurs, on cite ces pays en exemple.
Oui, absolument. Mais
n'oublions jamais que ce sont des îles.
Oui, mais la Chine, par exemple, y arrive. Oui. Y arrive quand même avec des difficultés, mais elle y arrive et c'est pas une île, hein, c'est un continent. Donc c'est même un continent presque à elle toute seule. Donc on peut y arriver, même en étant un continent ou un grand pays continental.
Donc la vaccination seule ne permettra pas de maîtriser l'épidémie.
Alors le problème de la vaccination seule, c'est qu'il y a des variants qui vont émerger, surtout si on accepte de laisser le virus circuler en même temps. C'est inéluctable et ces variants, la vaccination ne marchera peut-être pas.
Oui, dans tous les cas, pour l'instant, elle marche, apparemment. Sur les variants qui circulent. J'ai vu cette étude en Israël qui est très intéressante. 135 000 Israéliens qui ont été vaccinés. Ils ont reçu, ces 135 000 Israéliens, les deux doses du vaccin, le vaccin Pfizer-BioNTech. Taux d'hospitalisation égal à zéro. Ça veut dire qu'ils sont protégés.
Oui, mais on le savait déjà. Hein, sauf que là, on l'apprend avec une échelle beaucoup plus grande, parce que les Israéliens, effectivement, ont très bien étudié ça. Le vaccin marche très bien. Alors après, combien de temps il va marcher? Ça non plus, on ne le sait pas. Parce que pour l'instant, on sait que ça va marcher 3 mois, 6 mois. Puis au-delà de 6 mois, on ne sait pas encore combien de temps ça va marcher. Il va probablement falloir se révacciner. Il va probablement se vacciner contre des variants qui apparaissent, contre lesquels le vaccin n'est pas efficace. Donc c'est une histoire compliquée.
Et le vaccin AstraZeneca, qui va être autorisé en France probablement demain, qui a été autorisé au niveau européen. Doit-on le réserver aux moins de 65 ans?
Alors effectivement, vous êtes bien informé, il y a un doute sur les plus de 65 ans, qui sont les personnes qui auraient le plus besoin de ce vaccin. Malheureusement, ils n'étaient pas dans l'essai vaccinal, donc on ne connaît pas l'efficacité du vaccin chez les personnes plus âgées. Mais vous savez, on utilise les vaccins Pfizer là, chez des personnes de plus de 80 ans, on ne connaît pas non plus l'efficacité dans cette tranche d'âge de ce vaccin-là. Hein.
Oui, non, je vous dis ça parce que certains avancent la possibilité de vacciner avec ce vaccin AstraZeneca tous les soignants et même les plus jeunes. Est-ce que les soignants doivent devenir maintenant prioritaires dans la vaccination, compte tenu de l'augmentation du nombre de malades à l'hôpital?
Ah, mais c'est une évidence.
C'est une évidence.
Oui, bah oui.
Demandez à ce que les soignants deviennent, quel que soit leur âge.
Oui, oui, les soignants, pour moi, sont une priorité du vaccin, évidemment, parce qu'il y a des clusters qui se constituent dans les hôpitaux, et ça, c'est pas admissible. Donc, puis il faut protéger les soignants, de toute façon, c'est une évidence. Ils ont payé un suffisamment lourd tribut à cette épidémie.
Il faut absolument. Je ne sais pas si la décision sera prise. Dans tous les cas, vous le demandez. Oui. Johnson & Johnson, autre vaccin, Janssen.
Oui.
Puisque Janssen, c'est en Europe, qu'est Johnson & Johnson aux États-Unis, va proposer un vaccin aussi qui va sortir au mois de mars, semble-t-il.
À peu près.
Dose unique.
Dose unique.
Ça, c'est important.
Oui, dose unique, donc forcément plus facile à administrer. Oui. Mais pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour que je puisse en dire plus sur ce vaccin. Mais c'est un bon espoir, oui.
Et les tests salivaires, ça fait des semaines semaines qu'on parle de tests salivaires.
Oui.
On ça en vous fait sourire,
Oui, parce qu'on en parle tellement que...
qu'on ne les voit pas.
Bah oui, on ne les voit pas. Et puis surtout, on n'arrive pas à se faire une idée suffisamment précise, parce qu'apparemment, ça dépend des
Mais pourquoi ?
Bah, ça dépend apparemment des laboratoires qui commercialisent aussi les tests salivaires. Donc, il y en a qui disent, bah oui, c'est très bien. D'autres qui disent que c'est moins bien. On n'arrive pas à se faire une idée exacte. Honnêtement, et d'ailleurs moi-même, je n'arrive pas à me faire une idée exacte, donc je ne peux pas vous en parler mieux.
Vous ne pouvez pas en parler. Pour l'instant, il y a des tests PCR, ce sont les meilleurs et les plus efficaces.
Ouais.
Et les traitements, les fameux anticorps monoclonaux. L'Allemagne, qui est prête à utiliser ses cocktails d'anticorps de deux laboratoires américains, est-ce que nous devrions faire la même chose en France ? Ça coûte très cher.
Hein. Oui, ça coûte très cher. Alors, vous savez que Trump a été traité comme
oui,
ça. Hein.
Bien
il
sûr,
a reçu des anticorps monoclonaux en plus des corticoïdes.
Bien sûr.
Et du remdesivir, mais bon, il a été traité comme ça. Ce qui est apparemment efficace, ce n'est pas l'anticorps monoclonal, c'est des anticorps monoclonaux. Donc, il faudrait des combinaisons de deux anticorps
monoclonaux. Des cocktails, combinaisons, oui.
Voilà, ouais.
Oui.
C'est des médicaments qui coûtent très cher, ils ne pourraient pas être donnés à tout le monde. Et pour l'instant, il y a eu très peu d'essais thérapeutiques. Il y a un bénéfice qui apparaît, disons, intéressant, mais pas, enfin, c'est pas la panacée, quoi, clairement.
Et la colchicine ?
Et la colchicine,
bah, vous y croyez ou pas ?
Bah, c'est l'étude québécoise, donc l'étude canadienne, oui, on l'a tous vu.
Ceux qui souffrent de gouttes connaissent la colchicine. Bon,
voilà, c'est ça, exactement.
C'est un anti-inflammatoire.
Voilà, exactement, qui est connu pour donner de la diarrhée, d'ailleurs. On n'est pas convaincu de l'efficacité de la colchicine pour le moment.
Et le clofoctol, vous connaissez cela ?
Oui, j'en avais entendu parler, mais là aussi, j'ai pas vu l'essai thérapeutique.
Est-ce que vous pensez qu'on aura un nouveau médicament ?
Oui. Alors moi, je suis assez confiant là-dessus. Bah oui. Écoutez, regardez, on a eu un vaccin en même pas un an. Enfin, un an.
Oui.
C'est quand même incroyable. Qui aurait pensé qu'on aurait un vaccin en un an ?
Oui.
Donc moi, je pense qu'on aura effectivement des médicaments antiviraux efficaces dans les mois qui viennent. Oui, je suis assez confiant là-dessus.
Un médicament, c'est-à-dire un médicament qu'on prendra ?
Oui.
Qui soignera ou un médicament qui préviendra ?
Non, je pense que ça sera plutôt un médicament un peu comme sur le modèle de la grippe, parce que c'est aussi le cas avec tous les antiviraux, c'est-à-dire qu'il faudra les prendre suffisamment tôt dans l'évolution de la maladie pour bloquer le passage vers les formes graves.
Professeur Combes, on ne parle pas suffisamment du Covid long.
Oui.
Qu'est-ce que le Covid long ? Eh bien, ce sont certains malades qui souffrent de complications, de séquelles très invalidantes, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, des fatigues. Et les victimes ne sont pas que des personnes âgées.
Exact. Exact. Donc le Covid long, c'est quand même compliqué. Il y a des patients qui ont des séquelles de la réanimation, donc les formes graves ont des séquelles, malheureusement. Il y a des formes moins graves qui ont également des durées prolongées, par exemple perte de goût, perte d'odorat, qui peuvent durer. La fatigue aussi peut durer longtemps. Et puis, il y a des patients pour lesquels on a beaucoup de symptômes, pas beaucoup de signes physiques, et même pas du tout de signes physiques, on a du mal à distinguer
ce
qui revient.
Ça montre que le Covid n'est pas qu'une simple grippe, ça, professeur.
Ah ben non, c'est sûr que c'est pas une simple grippe. Hein,
C'est une preuve. Non, mais parce que j'ai tellement entendu ça, vous aussi.
Oui, mais c'était il y a un an.
C'était il y a un an. Mais, certains encore.
Oui,
certains adeptes du tout ouvert ou du...
Non. Oui, et puis c'est un mode de comparaison.
Certains anti-masques.
Voilà, on se réfère à la grippe en tant que mode de comparaison. Mais c'est pas une simple grippe, c'est plus grave que la grippe quand même.
Oui, c'est beaucoup plus grave que la grippe. Certains malades qui souffrent justement de ces Covid longs doivent être... je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'une fois sorti de l'hôpital, on ne se préoccupe plus. De ces malades-là.
Si, on s'en préoccupe.
Vous les voyez revenir à l'hôpital ?
Oui, on a des consultations spécialisées pour ça. Alors, paradoxalement, ce qu'on voit revenir, c'est pas forcément les malades qu'on a vus en hospitalisation. C'est parfois des malades qui n'ont pas été hospitalisés.
Qui n'ont pas été hospitalisés, qui ont eu des symptômes, qui ont souffert de la maladie, qui n'ont pas souffert gravement de la maladie, mais qui continuent pendant des semaines et même des mois à souffrir de la maladie.
Oui, enfin, on en a 50% quand même.
Est-ce qu'on a une explication ?
Enfin, on a quand même 50% de ces malades-là qui viennent nous consulter pour Covid long, pour lesquels on ne retrouve pas des preuves de Covid.
Ah bon ?
Oui. Dans notre série, c'est 50%. Puisqu'on a publié, on s'est intéressé à cette problématique des Covid longs et on a remarqué que 50% n'avaient pas eu le Covid.
Mais pourquoi est-ce que certains souffrent de Covid long ? On ne sait pas.
Comme je vous l'ai dit, il y a différentes catégories. Il y a les personnes qui souffrent de séquelles de passage en réanimation. Bon, bah, cela, c'est absolument évident. Il y a les personnes qui ont des séquelles des manifestations cliniques, perte du goût, etc. Et puis, il y a une troisième catégorie qu'on n'arrive pas à bien classer. Cette catégorie dans laquelle on retrouve quand même 50% de gens pour lesquels on n'a pas de preuve de Covid, la sérologie est négative, et pour lesquels on a du mal à mettre le nom Covid long là-dessus, parce qu'il y a d'autres causes qui peuvent expliquer un tel état, notamment l'anxiété très importante, les problèmes psychologiques, dont on parlait tout à l'heure. Je vous rappelle, ça retombe sur la définition de la santé selon l'OMS, c'est un état de bien-être physique, psychique et social.
Oui. Bien. Merci beaucoup, professeur Combes, d'être venu nous voir. Vous venez régulièrement. Je suis très heureux d'ailleurs parce que de faire le point régulièrement avec vous tous, ça nous permet de voir où nous en sommes et de dire franchement les choses. 8h54, merci RMC et BFM TV.